Quelles sont les caractéristiques contemporaines et les facteurs de la mobilité sociale? Comment définir et mesurer la mobilité sociale? Les formes et les enjeux de la mobilité. Le droit à la mobilité est l'un des principes fondamentaux des démocraties libérales énoncés par la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. La mobilité géographique est d'ailleurs un droit générique dans la mesure où elle conditionne l'exercice d'autres droits comme la santé ou le logement. Mais la mobilité n'implique pas toujours de déplacement physique. Elle peut consister à se déplacer au sein de la société, pour les individus comme pour les groupes sociaux. On parle dans ce dernier cas de mobilité collective. Cette mobilité sociale peut être une mobilité professionnelle ou intragénérationnelle au cours de la vie active ou une mobilité intergénérationnelle fondamentale dans une société démocratique qui garantit le libre accès à tous les métiers ou groupes sociaux. Si les professions les plus convoitées se transmettent des parents aux enfants sans s'ouvrir aux membres d'autres groupes sociaux, alors la forme démocratique de la société est remise en cause. Principes, intérêts et limites des tables de mobilité sociale. La mesure de la mobilité sociale s'effectue à partir de tables de mobilité qui croisent l'origine sociale, la profession des parents, avec la destinée des enfants, la profession des enfants. La table de recrutement ou d'origine présente la profession et catégorie socio-professionnelle, PCS, à laquelle appartenaient les parents en fonction du métier des enfants. À l'inverse, la table de destinée montre à quel PCS appartiennent les enfants en fonction de la PCS de leurs parents. Les tables de mobilité mettent en évidence une mobilité observée, ou absolue ou totale, mais également les situations de reproduction sociale ou immobilité sociale qui prennent la forme d'hérédité sociale ou d'auto-recrutement social lorsque les PCS des parents et des enfants sont identiques. Du fait de leur construction, les tables de mobilité comportent plusieurs limites. D'une part, elles reposent sur la nomenclature des PCS qui n'est pas clairement hiérarchisée. D'autre part, le découpage en 6 PCS peut masquer une partie de la mobilité sociale existant au sein des catégories. Il s'agit par exemple des passages de la catégorie employé non qualifié à la catégorie employé qualifié. À l'inverse, le découpage en 6 PCS peut surestimer la mobilité entre des catégories proches comme celle des employés et des ouvriers. Enfin, elles ne peuvent rendre compte de la mobilité subjective ressenti par les personnes lorsque leurs conditions de travail s'améliorent ou se détériorent, par exemple. La composante structurelle de la mobilité sociale. Les changements de position sociale entre les générations peuvent résulter des modifications entre les emplois qui existaient pour les parents et les emplois disponibles pour les enfants. Il s'agit dans ce cas d'une mobilité structurelle qui est une composante de la mobilité observée. La mobilité structurelle se mesure en calculant la différence entre le nombre de parents dans une PCS et le nombre d'enfants dans cette même PCS. La mobilité structurelle n'est donc pas liée à la volonté des individus, elle résulte des changements dans la structure de l'économie. Théorisé par Joseph Alois Schumpeter, le processus de destruction créatrice inhérent au capitalisme est la principale explication de la mobilité structurelle. En détruisant des emplois dans certains secteurs d'activité et en créant dans d'autres, le progrès technique implique des changements de statut professionnel entre les parents et les enfants. Selon la théorie du déversement d'Alfred Sauvy, les emplois disparaissent dans les secteurs primaires et secondaires à fort progrès technique et faible progression de la demande et apparaissent dans le secteur tertiaire à faible progrès technique et forte progression de la demande. La fluidité sociale, une mesure relative de la mobilité sociale. Une autre manière de mesurer la mobilité sociale consiste à évaluer la fluidité sociale, ou mobilité relative, en comparant les probabilités d'atteindre un même groupe social en fonction d'origines sociales différentes. La fluidité sociale, mesurée par les odds ratio, ou rapport des chances relatives, est donc indépendante des évolutions de la structure sociale entre la génération des parents et celle des enfants. La mobilité relative s'oppose à la mobilité observée, qui se compose de la mobilité structurelle et de la mobilité nette. Face à la difficulté d'interprétation de la mobilité nette, les spécialistes des tables de mobilité lui ont substitué une analyse en termes de fluidité sociale. L'analyse de la fluidité sociale montre qu'une société plus mobile n'est pas nécessairement une société plus fluide. En effet, la mobilité observée peut s'accroître entre les catégories ouvriers et employés, par exemple, sans que la probabilité d'accéder aux catégories valorisées, comme celle des cadres, augmente. Comment expliquer les caractéristiques de la mobilité sociale contemporaine? Les caractéristiques de la mobilité masculine. L'enquête « Formation, qualification et professionnel » réalisée par l'INSEE en 2014-2015 montre que les hommes occupent majoritairement des PCS différentes de celles de leurs pairs. La mobilité sociale masculine se caractérise par une mobilité structurelle minoritaire et en diminution depuis les années 1970. Les trajectoires des individus sont le plus souvent verticales et courtes et montrent une mobilité ascendante entre des PCS proches. Si le déclassement masculin ne concerne que 16% des hommes, il a été multiplié par 4 entre 1977 et 2014-2015. Sur cette période, la mobilité sociale descendante a augmenté pour les enfants de cadre et de professions intermédiaires, tandis qu'elle a diminué pour les employés et ouvriers. Actuellement, le sentiment de déclassement touche toutes les catégories sociales. En 2014-2015, 25% des hommes âgés de 30 à 49 ans se sentent déclassés par rapport à leur père. Ce sentiment s'explique en partie par la précarisation des emplois et la dégradation des conditions de travail ressenties par les salariés. Les caractéristiques de la mobilité féminine. L'analyse de la mobilité féminine est plus récente que celle de la mobilité masculine. En effet, les taux d'activité féminin ont longtemps été inférieurs à ceux des hommes, de même que la structure des emplois féminins divergeait de celle des emplois masculins. L'enquête FQP de 2014-2015 montre une mobilité féminine majoritaire et supérieure à celle des hommes. Au sein de la mobilité observée, la mobilité structurelle est forte. Les trajectoires de mobilité sont principalement ascendantes entre les mères et les filles, mais le déclassement est plus élevé par rapport aux pères. Par rapport aux hommes, les femmes éprouvent en moyenne un sentiment de déclassement plus élevé, notamment vis-à-vis de leurs pères. Ce sentiment de déclassement est moins élevé par rapport aux mères. Cette caractéristique de la mobilité féminine s'explique par les inégalités de genre sur le marché du travail, les pères occupant plus souvent des emplois qualifiés que les mères. Le rôle de l'école et des niveaux de formation dans la mobilité sociale. Outre les évolutions économiques qui expliquent la mobilité sociale structurelle, l'école et les niveaux de formation déterminent fortement la mobilité observée. De manière générale, plus un État investit dans un système éducatif de qualité, plus la mobilité observée est forte. Cependant, le paradoxe d'Anderson montre qu'un niveau de diplôme plus élevé que celui de ses parents ne garantit pas nécessairement une mobilité ascendante. En France, le système scolaire ne parvient pas à réduire totalement les écarts de réussite entre les élèves de milieux sociaux favorisés et ceux de milieux sociaux plus modestes, ce qui favorise la reproduction sociale. En effet, les élèves de milieux favorisés héritent d'un capital culturel valorisé par l'école, ce qui facilite l'obtention d'un niveau de formation élevé, favorisant à son tour la mobilité sociale ascendante ou la reproduction sociale au sommet de la hiérarchie sociale. Le rôle des ressources et configurations familiales sur la mobilité sociale. La famille joue un rôle fondamental dans l'explication des trajectoires improbables et probables de mobilité sociale. En effet, les configurations familiales sont fortement corrélées au changement de position sociale. De manière générale, plus la fratrie est nombreuse, plus l'immobilité sociale augmente. Cependant, la place dans la fratrie, sa structure et les ressources parentales ou des aînés peuvent rendre possible une mobilité ascendante. Les ressources et stratégies familiales contribuent également à expliquer la mobilité sociale. À niveau scolaire proche, les ambitions d'orientation diffèrent selon le milieu social de la famille. Ainsi, généralement, les familles de cadres ont plus d'ambition pour leurs enfants que les familles d'ouvriers. De même, les stratégies familiales comparant les coûts et les gains de la poursuite d'études sont parfois un frein à la mobilité sociale des moins favorisés, qui sous-estiment les gains procurés par un niveau de formation élevé.